Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Autrefois homme d'affaires, Patrick Daquet chemine aujourd'hui sur la voie de la sagesse. Au travers du festival Rencontres chamaniques, il participe à la renaissance du chamanisme occidental en prenant appui sur la connaissance archaïque conservée par les peuples traditionnels de notre planète. Patrick nous présente le festival qu'il co-organise avec le Cercle de Sagesse.
Patrick Daquet, fondateur du Cercle de Sagesse, à l'origine de ce rassemblement des traditions ancestrales que représente ce 10e festival de chamanisme, qui célèbre la paix, l'amour, la sagesse. Nous sommes maintenant à mi-parcours de cet événement. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de rituels. Vous-même, vous intervenez énormément, bien sûr, sur ce festival. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de tout ce que l'on fait ici en ce moment à Jeunac?
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans ce petit coin de France se retrouvent à peu près 135 délégations du monde, des 5 continents. Et ce qui paraissait impossible il y a quelques années devient de plus en plus possible. Et ce qui paraissait même impossible il y a encore 15 jours, s'est manifesté. Pourquoi impossible il y a 15 jours ? Parce que c'est d'énormes difficultés de faire venir des pygmées qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de papier, de faire venir de la forêt équatorienne des gens. Il leur faut des visas, les ambassades. Donc il y a encore 15 jours, il y a plein de délégations qui ne pouvaient pas venir, malgré qu'on ait acheté des billets d'avion. Donc du point de vue de l'organisateur, inutile de vous dire que c'est beaucoup d'émotions. Et puis finalement, on remue, on fait tout ce qu'il faut pour débloquer des situations. Et à Jeunac, l'ensemble des traditions se retrouvent ici pour communier ensemble et pour témoigner des mêmes valeurs. Alors quelles sont ces valeurs ? Bien, c'est les valeurs d'humanisme, d'universalité. Les pratiques ancestrales n'ont pas de hiérarchie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Je ne sais pas, par exemple, si on voit la religion catholique, il y a un pape, il y a des évêques, il y a des prêtres. Dans ces traditions ancestrales, il n'y a aucune hiérarchie de cet ordre. La seule chose qui relie en quelque sorte, c'est pas une sorte de centre comme le Vatican, mais c'est la sagesse, les sagesses communes. Si on voit ce dont témoignent les pygmées Aka de la forêt équatoriale africaine, ou des Mamos de Colombie, ou des Indiens du Brésil, de la forêt amazonienne ou de la forêt équatoriale, enfin toutes ces délégations qui sont là, quand on parle en nous, quand on parle entre nous, quand on pratique les cérémonies, on s'aperçoit qu'il y a une universalité de ces pratiques. Et il y a une sagesse qui est commune à tous. Ce qui nous fait dire que la sagesse, on peut avoir une sagesse personnelle, hein, chacun, y compris ceux qui m'écoutent, ont une sagesse familiale ou personnelle. Mais pour savoir quelle est la sagesse originelle, celle qui est la plus proche d'une certaine vérité, eh bien c'est quand même rassurant de voir que sans le savoir, notre sagesse, par exemple la sagesse celtique, est bien identique aux sagesses de tout le monde, de tous les pays du monde. Alors ce qui me frappe le plus dans ce rassemblement, c'est cela. C'est l'universalité de nos cultures qui témoignent tous d'une même sagesse. Et pourquoi cette même sagesse a pu être conservée ? Parce que justement, si vous voulez, il n'y a pas de mondialisation du chamanisme. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde a des couleurs différentes, des costumes différents, des langues différentes, des nourritures différentes, des pratiques spirituelles différentes. Et contrairement à un monde qui veut que tout le monde parle la même langue, que tout le monde s'habille de la même manière, que tout le monde mange dans la même nourriture. Et finalement, on s'interroge pourquoi il y aurait cette volonté d'uniformiser. On peut peut-être imaginer que c'est plus facile à contrôler des gens qui marchent au même pas que des gens qui parlent des langues différentes, qui marchent différemment, qui ont... Alors, les pratiques chamaniques, c'est une résistance finalement à ce qui est en train de se passer. Les pratiques chamaniques, les pratiques traditionnelles ancestrales sont basées sur le clan. Et un clan, il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur du clan. Le chaman n'est pas plus important que quiconque dans ce clan. Il a une fonction, tout simplement. Et le clan s'auto-survit, s'auto-nourrit d'une communauté. Et s'il y a un de membres du clan qui est malade, c'est l'ensemble du clan qui va le guérir. C'est-à-dire que plus on est petit, plus on est clanique, et plus les gens sont heureux, écoutés, trouvent leur place. Dans un clan, il ne peut pas y avoir de gens un peu plus simples mis sur le côté, sur la touche. La notion de chômage n'existe pas. L'être simple dans un clan, il a une fonction lui aussi. Il a sa dignité parce qu'il a quelque chose à faire, parce qu'il est reconnu en tant que tel. Dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a que les performants qui ont de la place. Et en plus, pas longtemps, parce que quand ils sont un peu trop vieux, on les fout dehors. Donc, on est bien dans un monde de consommation d'hommes, de consommation d'illusion absolue à tous les niveaux. Et je pense que la tradition ancestrale, loin d'être une sorte de nostalgie folklorique, comme on peut l'entendre, fait partie d'un grand espoir et fait partie de l'avenir que nous pouvons espérer pour nos enfants et nos petits-enfants. Bien sûr qu'on ne va pas vivre avec la bougie comme nos grands-parents, et encore, c'était la lampe à pétrole. Bien sûr qu'on ne va pas se remettre à marcher à pied et ne plus rouler en voiture, mais en attendant, les valeurs ancestrales ont eu un mérite, c'est de nous permettre de retrouver des valeurs qui pourraient être adaptées à notre monde moderne. L'écologie, c'est bien, l'environnemental, c'est bien, mais quand c'est dénué de cette spiritualité naturelle en lien avec tous les éléments de la nature, il manque la colonne vertébrale pour qu'on puisse donner un sens à cela. Et voilà à quoi sert ce festival de Jonac. Voilà à quoi sert de se retrouver toute cette multitude de peuples, plus toutes les personnes qui sont venues. J'ai appris là qu'il y avait 2500 personnes qui étaient venues jusqu'à ce jour. C'est tout à fait extraordinaire. Avec d'ailleurs, je remercie les autorités locales, je remercie le président du conseil départemental, François Bonneau, un homme exceptionnel d'ouverture, un humaniste, un homme de cœur, qui nous facilite les choses. Sans nous donner d'aide particulière, mais parce que nous voulons rester indépendants, nous voulons être assujettis à aucun sponsor. Alors c'est tous les gens qui viennent en donnant un peu d'argent et qui permettent de faire venir le monde entier ici à Jonac. Je les remercie tous.
Thank you.
J'ai envie de parler de quelque chose, Patrick. J'ai assisté à l'ouverture. Vous avez été ému par rapport à un message du Pérou. En ce moment même se déroule, j'allais dire, ce même festival, mais au Pérou. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, d'autant plus que nous avons envoyé une réponse à leur lettre magnifique. Et ils nous ont envoyé une réponse à notre réponse, qui est émouvante. Et dans ma réponse, je les avais invités pour le prochain festival, qu'une délégation de leur... c'est pas un festival là-bas, c'est un rassemblement pan-américain, c'est-à-dire que c'est toutes les cultures traditionnelles d'Amérique du Sud qui se réunissent chaque année dans un pays différent. Et cette année, c'était au Pérou. Et ils nous ont envoyé une lettre de solidarité en disant « Vous, en Europe, vous faites la même chose que nous, aux mêmes dates, c'est incroyable, 4 jours, les mêmes 4 jours, il n'y a pas de hasard. » Et on leur a répondu, bien sûr, pour leur dire qu'on était solidaires de ce qu'ils faisaient. Et ils nous ont répondu qu'ils acceptaient l'invitation. Et l'année prochaine, une délégation de cette organisation panaméricaine des traditions ancestrales sera là à notre 11e festival. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une internationale des traditions ancestrales. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous unifier, de nous rassembler. Parce qu'on voit bien avec les pygmées Aka qui sont en train de mourir. S'ils ont accepté de quitter leur forêt, par exemple, il y a un grand-père, il n'avait jamais quitté sa forêt. Imagine le choc culturel, le choc émotionnel d'entrer dans un monde moderne brutalement à son âge. Eh bien, ils acceptent cela, le grand-père accepte ça parce qu'ils sont en train de mourir, de disparaître. Et chaque peuple qui disparaît est une atteinte à notre humanité, à notre humanisme. Chaque langue qui meurt est une atteinte à notre humanité, à notre humanisme. Chaque différence qui meurt est une atteinte à notre humanité, à notre humanisme. C'est nos différences qui créent notre force et ce n'est pas de nous faire marcher au même pas qui fera, au contraire, nous rendra plus forts, mais nous affaiblit et créera notre perte. Et ce que je crains, c'est que ça soit... Moi, je suis un grand-père, je n'ai pas envie que mes petits-enfants puissent vivre un monde infernal. J'ai envie, comme tout bon grand-père, que mes petits-enfants puissent avoir une vie douce et merveilleuse. Alors, c'est pour cela. Ça me donne la force pour mes petits-enfants de ne pas accepter ce que nous nous présente aujourd'hui. Alors, évidemment, on paraît des petits poussets. Mais vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Il suffit que nous soyons beaucoup très décidés, et nous le sommes, pour faire vaciller Goliath. Le Goliath, d'ailleurs, est en train de vaciller de toutes parts. On voit les élections, on voit les gens ne croient plus dans ce système. Les religions montrent leur intégrisme, les religions montrent leurs limites. Même si dans les religions, il y a des gens qui sont sincères et purs, hein, la question n'est pas là. Mais le système est en train de vaciller. Nous sommes en plein chaos, au début du chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouvel ordre sort toujours d'un chaos. Il faut toujours du chaos pour qu'on passe à des choses nouvelles. Nous sommes dans une période de transition. Nous accompagnons cette période de transition pour remettre un peu de sagesse, un peu de... Vous savez, on appelait ça avant la sagesse paysanne. Vous savez, c'est dicton tout simple, mais la sagesse est simple. Il faut revenir à la simplicité. Arrêter de croire que c'est toute la tête, toute l'intelligence... et que l'intellectualisation des choses, il faut arrêter de croire à ces illusions, revenir à nos essences, à nos racines.
aussi sur le festival du chamanisme des délégations des 5 continents. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à rencontrer les pygmées par exemple? Comment est-ce que vous avez réussi à les faire venir et comment êtes-vous entré en contact avec eux?
Alors pour cet exemple précis des Haka, c'est par le biais de Sorel Etta, qui est un ethnologue qui défend ce peuple et qui veut absolument faire qu'il ne disparaisse pas. C'est un investissement de toute sa vie. Il se consacre à ce peuple car il estime que c'est un livre vivant et qu'il ne faut absolument pas qu'il soit détruit. Alors c'est donc cet ethnologue-là qui a été celui qui a travaillé sur place, parce que pour les faire venir c'est très compliqué, il habite sur place, c'est un Congolais. Et il a réussi ce tour de force, je dirais, administratif, de démêler ça avec notre soutien par le Quai d'Orsay, puisque grâce à des personnes, nous avons pu au Quai d'Orsay intervenir pour alléger les difficultés. Mais en ce qui me concerne, pour répondre plus en profondeur à votre question, c'est bien un problème pour moi, c'est que je suis amené à beaucoup voyager et aller rencontrer ces peuples, puisque c'est pas que dans un sens, hein. On n'est pas un festival de musique, hein. on est avant tout un rassemblement traditionnel, et c'est très fatigant. Alors je suis allé chez les pygmées, j'ai vécu avec eux, et pendant presque 3 semaines, dans leurs conditions de vie, au fin fond de la forêt, hein, pas du tout dans la banlieue de Libreville, au Gabon, mais ça a été un bouleversement, ça a été pour moi un choc positif, mais ça remettait en cause beaucoup de mes croyances, beaucoup de mes manières de penser. Pourtant, je pensais être quelqu'un de très ouvert. Mais voilà, je vois les Mongols qui passent, là, au moment où je vous parle. Eh bien, j'étais en Mongolie il y a quelques mois chez eux, où ils m'ont emmené dans leur steppe pour aller voir leurs différentes traditions, pour aller faire des cérémonies sur les monts sacrés de leur pays. Je vois passer là-bas les Mamos de la Sierra Nevada, c'est-à-dire qui se trouve en Colombie. Vous savez, ces hommes avec leur chapeau haut, là, tout blanc. Et ils m'ont invité à aller en Colombie. Et le chef Mamos m'a dit qu'il ne quittera pas Jonac tant que je n'aurais pas mis une date sur mon agenda, parce qu'ils veulent me recevoir escalité. Donc j'ai donné ma parole qu'avant de partir, je donnerai une date pour y aller. Mais j'ai résisté parce que c'est beaucoup de fatigue. Je pense que jusqu'à ma mort, je me consacrerai à ça, donc je suis amené à beaucoup voyager parce qu'évidemment ils viennent ici, parce que nous allons chez eux et que nous traitons des traités d'alliance. Par exemple avec les Mongols, ma grande surprise a été qu'avant mon départ de Mongolie, ils avaient préparé un papier écrit, un engagement à signer pour créer un lien entre la tradition celte et la tradition mongole, avec un certain nombre de demandes et d'engagements que j'ai signé volontiers, ce qui fait qu'à chaque fois nous signons des protocoles d'accord, des alliances avec différentes traditions, ce qu'on va faire avec les peuples de la Sierra Nevada, les Kogis, etc. Donc c'est beaucoup de fatigue, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça, évidemment, que l'on peut avancer pour le cercle de sagesse. Je voudrais dire aussi, pour terminer, que c'est notre projet, c'est de faire reconnaître par l'UNESCO que ces traditions ancestrales du monde font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et par conséquent, nous avons commencé le dossier avec des juristes, avec des scientifiques, avec des ethnologues. Je les salue tous. Jean-Patrick Costa, Philippe Bobola, Barbara, directrice de recherche au CNRS. Enfin, vraiment des gens très sérieux qui vont nous aider à construire ce dossier. Et ça mettra 5 ans ou 10 ans, mais c'est aussi notre objectif, parce qu'il faut protéger notre diversité, qu'elle soit écologique, mais qu'elle soit aussi spirituelle et humanitaire. Si nous ne le faisons pas, nous allons à la catastrophe. Ce n'est pas du dogme. On a envie de convaincre personne, parce que dans convaincre, il y a vaincre, puis il y a autre chose. Et non, c'est fini ça, les prophètes, les maîtres, tout ça, les gourous, les religions porteuses de la seule vérité qui soit. Regardez l'intégrisme actuellement, ce que ça donne. Il faut que les hommes récupèrent leur souveraineté. Il faut que les humains retrouvent leur liberté intérieure, leur liberté spirituelle. Il faut que les humains retrouvent ce paradis originel dont on parle. Il existe, c'est possible, on rentre dans un nouvel ère. On a peut-être encore des milliers d'années pour y arriver. Vous savez, l'image du temps, c'est pas grand-chose. Mais ça y est, on est parti. En tout cas, nous, modestement, on va accompagner ce mouvement.
Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
J'ai une dernière question, Patrick, pour nos auditeurs. Ça peut paraître peut-être un peu décalé. Est-ce que le rêve est important?
Oui. Chez les Australiens qui sont ici, leur système de pensée est que c'est le rêve qui crée la réalité. C'est-à-dire on vient du rêve pour que les choses soient incarnées. Donc s'il y a un rêve, c'est une manière de communiquer avec une méta-vérité autre. Alors certains appellent ça comme vous voulez, mais enfin, Philippe Bobola vous expliquerait en physique quantique que c'est tout à fait réaliste ce que je suis en train de dire et ce que les chamans ont toujours pensé. C'est-à-dire que cette méta-réalité, cette supra-réalité qui est dans les mondes invisibles, on se nourrit de cette source et on l'incarne. Et dans tous les systèmes traditionnels ancestraux, il est dit que c'est pas de la matière qu'on monte vers le désincarné, mais c'est le désincarné qui s'est matérialisé. C'est pour ça qu'on va pas chercher d'ailleurs, quand on est sur cette terre, un paradis hypothétique qui serait après notre mort. On sait que le paradis est ici et maintenant sur cette terre et qu'il faut simplement se donner un peu de peine pour le retrouver. Regardez les beaux décors, hein, il fait beau, la nature est magnifique, les oiseaux, la mer, les rivières. On a vraiment un terrain de jeu, si je puis dire, qui est exceptionnel. Alors tout est ici. C'est aux humains de retrouver leur origine céleste, terrestre. C'est là que ça se passe. Donc, si vous voulez, le rêve est la source qui nous permet d'avancer dans la matière. C'est pour cela que chez tous les chamans, chez tous les traditions ancestrales, on va chercher à rêver, à entrer dans d'autres réalités. Et ensuite, cette réalité, on va l'incarner dans la matière. D'ailleurs, on va les peindre sur le costume. On va faire des sculptures, non pas pour adorer un bout de bois, il faudrait être complètement aberrant, mais tout simplement pour incarner dans la matière ce rêve ou cette relation, et on va remercier et honorer tout ce qui est de l'ordre de ce rêve incarné. Alors ceux de l'extérieur, ils vont dire, oh ben, ils adorent un bout de bois ou ils dessinent, voilà, mais c'est une méconnaissance absolue. C'est au contraire adorer tout ce qui est de l'ordre de la création. Honorer les feuilles, honorer les arbres, honorer les plantes, honorer les roches, honorer l'eau, le peuple du vent. On est tout le temps dans le remerciement et la gratitude. On honore et on invoque leur soutien. Et on considère qu'ils sont aussi un autre nous-mêmes, une sorte de peuple différent. Mais il n'y a pas de hiérarchie non plus, ce sont des peuples qui côtoient d'autres peuples. C'est la vision traditionnelle, ancestrale, de tous les peuples qui sont ici représentés à ce 10e festival. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais simplement vous délivrer un petit message. C'est que je vous aime tout simplement. Je vous aime parce que vous êtes des êtres humains et vous êtes des autres nous-mêmes. Dans ces périodes où on a tendance à chercher des boucs émissaires qui sont créateurs de nos malheurs, hein, et comme on l'a fait dans la dernière guerre, hein, c'était les juifs, avant c'était les protestants, c'est les noirs, c'est les jaunes, c'est les émigrants, c'est les gens du village d'à côté. Il faut arrêter ça. On ne peut rien par la haine, on ne peut rien par l'exclusion. On peut tout par l'ouverture, on peut tout par le cœur, on peut tout par la fraternité. Comprendre l'autre, c'est déjà mieux se comprendre. Alors dans cette période un peu troublée, je peux comprendre la colère. Alors allez la déverser dans la nature, pousser un grand cri, taper avec vos mains sur des matelas. Mais s'il vous plaît, ne la déversez pas sur les autres humains, parce que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Alors je vous aime comme je vous demande de m'aimer, parce que c'est le seul moyen de créer un monde meilleur. Merci à vous.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.